VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Gabon, Brice Lacruche Alianga, l'ex-bras droit d'Ali Bongo, condamné à 5 ans de prison ferme. Les Soudanais toujours mobilisés contre le putsch malgré les morts. Le chef de l'ONU appelle l'armée à la retenue lors des manifestations de demain samedi. Le président Joe Biden s'est entretenu aujourd'hui avec le pape et le président français Emmanuel Macron à la veille du sommet du G20. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le quatrième vice-président du Conseil national de transition au Mali, Issa Kaoudjim, comparaît aujourd'hui devant un tribunal de Bamako. Il est poursuivi pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Il est jugé selon la procédure de flagrant délit. Le verdict est toujours attendu dans la capitale malienne. Issa Kaoudjim, au caractère bien trempé, est l'ex-porte-parole de l'imam Mahamoud Diko, leader politico-religieux qui a participé à la mobilisation et a conduit à la chute de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un putsch militaire en août 2020. Il est également connu pour son soutien au président de transition, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte ayant pris le pouvoir au Mali, et pour ses critiques contre le premier ministre de transition, Choguel Kokala Maïga. Il s'était d'ailleurs opposé à M. Maïga après la décision du Mali de déclarer persona non grata le représentant spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Bamako, à Midouboli, accusé par les autorités maliennes d'agissements incompatibles avec son statut. Au Gabon, Brice Lacruche Alianga, ex-bras droit du président Ali Bongo Ondimba, a été condamné par le tribunal de Libreville à 5 ans de prison ferme pour délivrance indue de documents administratifs. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
Ancien directeur du cabinet présidentiel, Brice Lacruche Alianga, est reconnu coupable d'avoir obtenu illégalement la nationalité gabonaise, un chef relativement mineur au regard des autres enquêtes dans lesquelles il est poursuivi. Monsieur Lacruche Alianga a également été condamné à verser une amende de 5 millions de francs CFA. Son avocat, Ange Kevin Zingu, a dénoncé une peine inique qui fait perdre tout crédit à la valeur de la justice, se réservant le droit de faire appel. Je ne crois pas en la capacité des magistrats dans le dossier de dire le droit, a-t-il ajouté, évoquant une décision politique. Écarté de la présidence en novembre 2019, Lacruche Alianga a été la cible d'une opération anticorruption appelée Scorpion, qui avait aussi visé des ministres et des hauts fonctionnaires qui lui étaient fidèles. Il a été arrêté en décembre 2019 avec plusieurs autres ministres et hauts fonctionnaires et incarcéré à Libreville pour détournement de fonds publics.
Une mission de la CEDEAO est en Guinée pour accompagner la transition dans ce pays où des militaires ont renversé le 5 septembre le président Alpha Condé, dirigé par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou. Elle doit séjourner en Guinée jusqu'à demain samedi, a précisé jeudi cette organisation dans un communiqué. La mission doit mener des concertations avec les autorités afin d'évaluer les soutiens techniques pour la transition en cours, a dit dans son communiqué la CEDEAO sans plus de détails. C'est au moins la troisième mission de la CEDEAO en Guinée depuis le putsch qui a renversé Alpha Condé. Au Soudan, les manifestants hostiles au coup d'État militaire sont à nouveau dans les rues ce vendredi, à la veille d'une grande manifestation où les organisateurs promettent 1 million de personnes. Le secrétaire général de l'ONU appelle les forces de sécurité à la retenue. Abdourahmane Dia.
À Khartoum, la répression n'a pas dissuadé les manifestants qui sont à nouveau sortis dans les rues ce vendredi. Accueillir des manifestants pacifiques avec des balles est intolérable et ça ne nous fera pas plier, a lancé un manifestant. Depuis le putsch de lundi, au moins 8 personnes ont été tuées et plus de 170 blessés par les forces de sécurité selon des médecins pour qui le bilan pourrait être plus lourd. Les médias non plus n'ont pas été épargnés. Des soldats ont pris d'assaut la télévision nationale dont le patron, partisan d'un pouvoir civil, a été limogé jeudi, ainsi que l'agence officielle Suna. Vendredi, le journal Al Démocratie a été ciblé. Des soldats ont obligé le gardien du bâtiment à partir et la porte a été scellée. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, à la veille de l'ouverture d'un sommet du G20 à Rome, a appelé les militaires soudanais à montrer de la retenue et à ne pas faire davantage de victimes. Il a déclaré que les gens doivent être autorisés à manifester pacifiquement.
Le chef de la junte militaire soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, sous pression pour restaurer un gouvernement civil, a indiqué qu'un technocrate pourrait être nommé premier ministre d'ici une semaine. D'après Reuters, Abdel Fattah al-Burhan a laissé ouverte la possibilité que Abdallah Hamdok redevienne premier ministre, ajoutant que l'armée négociait avec lui pour former le nouveau gouvernement. Au moins un soldat burkinabé a été tué et un autre blessé ce vendredi dans deux attaques contre des convois miniers dans le nord et l'est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Ces sources ont également indiqué que jeudi, deux gendarmes avaient été tués dans une attaque contre un poste de contrôle dans la province de l'Oudalan, dans le nord du pays, sans plus de précision. En RDC, au moins 14 civils ont été tués en Ituri, dans le nord-est du pays. Ces personnes ont été assassinées dans le village de Djina à la suite d'une incursion d'une coalition de deux milices, CODECO, URDPC et ALC, a indiqué sur Twitter le baromètre sécuritaire du Kivu, initiative conjointe de l'ONG Human Rights Watch et du groupe d'études sur le Congo. Toujours en RDC, un véhicule de Médecins sans frontières MSF a été visé par des tirs qui ont blessé deux membres de l'équipe à bord. Le véhicule circulait dans la province de l'Ituri, entre Kobu et Bambou, avec cinq employés de MSF à son bord. L'ancien premier ministre du Congo-Brazzaville, Clément Mwamba, est décédé cet après-midi en France des suites du COVID-19. Il avait été évacué d'urgence à Paris après des complications de l'infection à COVID-19. L'ancien premier ministre était vacciné contre la pandémie. Il a été premier ministre du président Denis Sassou Nguesso d'avril 2016 à avril 2021. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, en première ligne dans la lutte contre la pandémie, est seul candidat à sa succession et sa réélection ne fait guère de doute. Sa candidature unique a été confirmée ce vendredi par l'OMS dans un communiqué. Âgé de 56 ans, ce spécialiste du paludisme est diplômé en immunologie, docteur en santé communautaire et ancien ministre de la Santé et chef de la diplomatie éthiopienne. Les États membres voteront pour le prochain chef de l'OMS lors d'un scrutin secret pendant l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2022. Le mandat du futur directeur général débutera le 16 août 2022.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden, deuxième président catholique des États-Unis, a eu aujourd'hui une audience privée avec le pape François. Et toujours à Rome, il a aussi rencontré le président français Emmanuel Macron. Les précisions de John Lydon.
Joe Biden a salué le souverain pontife comme étant le guerrier de la paix le plus important qu'il a jamais rencontré lors d'une réunion au Vatican qui a duré plus d'une heure. La rencontre a été fermée aux médias, mais des images publiées par le Vatican montrent une atmosphère de bonne humeur avec beaucoup de sourires. Biden, un moment visiblement ému, a dit au pape « Dieu vous aime ». Le président américain lui a remis une pièce rappelant le régiment dans lequel avait servi son fils Beau Biden, décédé des suites d'un cancer en 2015, en déclarant « Je sais que mon fils voudrait que je vous donne ceci ». Biden et le pape ont tous deux été francs sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, thème dominant de leurs entretiens. Le Vatican a déclaré avoir discuté aussi de la pandémie et de la question des réfugiés et des migrants, ainsi que de la protection des droits de l'homme, y compris la liberté de religion et de conscience. La question de l'avortement n'a pas été évoquée. Outre le pape, Joe Biden a également rencontré son homologue français Emmanuel Macron à la Villa Bonaparte, l'ambassade de France près du Vatican. Les deux présidents veulent sceller la réconciliation après une grave crise en septembre autour des sous-marins pour l'Australie où les États-Unis ont torpillé un grand contrat avec la France. Demain samedi, Joe Biden et Emmanuel Macron vont se retrouver en petit comité avec le premier ministre britannique Boris Johnson et la chancelière allemande Angela Merkel qui participent à son dernier sommet du G20 pour accorder leur violon sur la reprise annoncée des négociations avec l'Iran.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce vendredi le G20 à remettre sur le bon chemin les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement climatique à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Il y a un risque grave que Glasgow ne donne pas le résultat espéré, a-t-il réaffirmé au cours d'une conférence de presse à la veille d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement du G20 ce week-end à Rome. Emmanuel Macron et Boris Johnson devraient avoir un entretien au cours du week-end en marge du G20 à Rome, ont annoncé aujourd'hui les services du Premier ministre britannique, alors que l'affrontement entre la France et la Grande-Bretagne sur les zones de pêche dans la Manche après le Brexit ne montre aucun signe d'apaisement. Le gouvernement britannique menace désormais de renforcer les contrôles des navires français en réponse à l'immobilisation au Havre d'un chalutier britannique dont le capitaine a été convoqué par la justice française. La chancelière allemande Angela Merkel, sur le départ, effectuera une dernière visite d'adieu en France mercredi pour rencontrer le président Emmanuel Macron à Bonn, dans l'est de l'Hexagone, a annoncé ce vendredi Berlin. Le voyage sera axé sur des échanges personnels, sur les questions actuelles de politique internationale et européenne, a déclaré Martina Hafiz, la porte-parole du gouvernement. Après 16 ans de pouvoir, Mme Merkel doit quitter la politique après la constitution d'un nouveau gouvernement allemand attendu pour le mois de décembre. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Cyclisme pour commencer. C'est parti pour la 33e édition du Tour cycliste international du Faso. La première étape courue aujourd'hui entre Bamfora et Bobo-Dioulasso, 128 km, a été enlevée par le Belge Wouters Rüdgers. Nous retrouvons sur place notre correspondant Kader Traoré sur les routes du Tour.
Après 2h56 minutes 48 secondes de course, la victoire est revenue au Belge Rutger Wouters de la team Flanders. Il a devancé au sprint Saïdi Nassim d'Algérie et Mouchine El Kouradji du Maroc. Le vainqueur du jour célèbre de la plus belle manière sa première venue en terre africaine.
C'est mon première fois en Afrique et c'est magnifique. J'étais fort aujourd'hui, donc ça c'est le clé. Quand tu es fort, c'est possible. La course est dure, le parcours est dur, la chaleur c'est très très dur pour nous Européens.
Le premier Burkinabé, Haruna Ilboudo, est arrivé à la 4e position derrière le trio des têtes. Quant à Paul Daumont, il se classe 9e après ses déboires mécaniques. Mais l'équipe qui a connu le plus de difficultés, c'est le Bénin. Arrivé avec 5 coureurs, 2 vont abandonner après seulement 20 km de course. Explication avec le directeur de course, Oshio Papouin.
Et puis hier, on a 2 coureurs qui avaient la diarrhée toute la nuit jusqu'à ce matin. C'était très, très compliqué pour eux. Et on s'est dit peut-être que pendant la course, ils vont se retrouver. Mais ils ont commencé la course, ils ne pouvaient plus. Et on s'est dit, mieux vaut abandonner que le pire arrive, quoi.
Demain, samedi, la deuxième étape va se courir entre Bobo-Dioulasso et Dédougou, longue de 171 km. Elle pourrait déjà déterminer la configuration pour la conquête du maillot jaune. Kader Traoré sur les routes du Tour du Faso pour VOA Afrique.
Football, Didier Six n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de la Guinée. Les négociations entre la Fegifoot et Didier Six sont en cours pour une séparation à l'amiable, indique un communiqué publié sur le site de la Fédération guinéenne de football. Le technicien français qui occupe ce poste depuis septembre 2019 n'a pas honoré la seconde partie de son contrat, une qualification pour le Mondial 2022, explique la Fegifoot. La fédération a décidé de confier la gestion des 2 prochains matchs du Sili National au duo Kaba Diawara et Mandjou Diallo, indique le communiqué. La Guinée doit rencontrer le 12 novembre la Guinée-Bissau à Conakry et le Maroc 3 jours plus tard à Rabat pour le compte des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ces matchs sont sans enjeu pour la sélection guinéenne qui a perdu tout espoir de se qualifier. NBA, dernière équipe invaincue, Utah a marché sur Houston 122-91. Auteur de 30 points et 18 rebonds, le Camerounais Joel Embiid a permis à Philadelphie de s'imposer 110-102 contre Détroit. À San Francisco, Memphis a joué un vilain tour à Golden State, battu 104-101. Après prolongation, Washington a dominé Atlanta 122-111. À Dallas, les Mavericks ont battu San Antonio 104-99. À noter aussi la victoire sur le fil de New York devant Chicago, 104-103.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Un kaléidoscope de 325 partis sont en lice pour les élections municipales ce lundi en Afrique du Sud, les sixièmes depuis la fin de l'apartheid en 1994. Sur les 60 000 candidats, plus de 1 700 sont des indépendants qui affrontent leurs anciens camarades. Quant à l'ANC, le Congrès national africain qui domine la vie politique du pays depuis l'instauration de la démocratie, il doit compter avec le désenchantement des citoyens. L'enjeu est donc de taille pour le parti de Nelson Mandela. Pour en parler, Jacques Aristide s'est entretenu avec le professeur David Zoumenou Doussou, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Les grands enjeux pour ces élections se situent à deux niveaux, en fait. Il s'agit pour les citoyens de décider des individus ou des personnes de la communauté à qui ils veulent confier le mandat de gouverner la municipalité ou la localité. C'est la démocratie de proximité, ce qui accentue ou ce qui devrait accentuer la notion de responsabilité et surtout de reddition de comptes. Le deuxième grand enjeu pour ces élections, pour les partis politiques, de tester leur popularité, de tester leur capacité de mobilisation, surtout dans la perspective des élections présidentielles programmées pour 2024. Et ceci est d'autant plus important que la plupart des partis politiques sont en recul dans les sondages qui ont été conduits ces dernières années.
Pour la première fois depuis 27 ans, les sondages indiquent qu'une majorité d'électeurs pourraient se détourner du parti de Nelson Mandela. Pourquoi ce désenchantement à l'égard de l'ANC d'après vous ?
Cela s'explique par les divisions internes qui continuent de miner l'ANC, divisions idéologiques, mais également divisions politiques, surtout autour de la question de Zuma, qui continue simplement d'affecter l'organisation ou le mouvement politique a conduit l'Afrique du Sud vers la libération.
Le consultant David Zoumenou Doussou, chercheur à l'Institut d'études de sécurité, joint à Pretoria en Afrique du Sud. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, vient de boucler une visite au Mali, au Niger et au Gabon en tant que membre d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU conduite par les missions permanentes du Kenya, de la France et du Niger auprès des Nations Unies. À Bamako, la représentante des États-Unis auprès de l'ONU a souligné l'importance du retour d'un gouvernement civil au Mali par le biais d'élections démocratiques. L'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield s'est entretenue avec des journalistes ce vendredi en ligne depuis Libreville. Jacques Aristide nous résume les points saillants de cette conférence de presse virtuelle.
Le Mali, première étape donc de cette tournée africaine de Linda Thomas-Greenfield avec la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, visite qui a eu lieu du 22 au 24 octobre à Bamako, l'occasion de mieux comprendre les défis politiques et sécuritaires du Mali et de veiller à ce que le processus se poursuive et permette de tenir les élections en février prochain.
Au Mali, en tant que membre de la délégation du Conseil de sécurité et lors de réunions séparées, j'ai rencontré le gouvernement de transition, y compris le président et le premier ministre, pour discuter de l'importance du retour du Mali à un régime constitutionnel par le biais d'élections démocratiques et du rôle essentiel que joue la MINUSMA dans la promotion de la paix et la sécurité. Lors de ces réunions, ainsi que des discussions avec les représentants de la société civile malienne et des représentants du comité de suivi de l'accord d'Alger et à l'équipe de médiation internationale, nous avons réaffirmé que les États-Unis restent fermement aux côtés du peuple malien dans ses aspirations à la démocratie, à la paix, au développement et au respect des droits de l'homme.
La délégation a ensuite mis le cap sur Niamey, au Niger, pour prendre part à des réunions du 24 au 25 octobre avec les dirigeants nigériens et des responsables de l'ONU.
We moved on to Niger also.
Nous continuons les discussions avec les membres du gouvernement, dont le président et le représentant de la force conjointe du G5 Sahel, de l'importance des institutions démocratiques dans la région et de la propagation rapide de l'instabilité et de l'extrémisme violent dans le Sahel. Lors de mes discussions bilatérales, nous cherchons des moyens de collaborer pour atteindre nos objectifs communs, en particulier durant la période que le Niger compte encore cette année au sein du Conseil de sécurité. J'ai personnellement félicité le président Bazoum pour le tout premier transfert de pouvoir au Niger d'un président démocratiquement élu à un autre.
À Libreville, au Gabon, du 27 au 29 octobre, l'ambassadrice Thomas Greenfield a rencontré de hauts responsables du pays. Au menu, les avenues de coopération dans le domaine du maintien de la paix de l'ONU, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique avant le mandat 2022-2023 du Gabon au Conseil de sécurité.
Je les ai félicités pour la récente élection du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une reconnaissance du rôle du Gabon en tant que leader mondial du climat et en tant que leader régional pour la promotion de la paix. Ce leadership est si important parce que la fenêtre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius se rétrécit. Ce leadership est si important parce que la fenêtre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius se rétrécit. Et en ce moment, les dirigeants mondiaux, dont le président Bongo se réunissent à Glasgow pour assister à la COP26 en tant que champion de l'Union africaine pour le réchauffement climatique, en tant que champion de l'Union africaine pour le changement climatique. Le président Bongo a ouvert la voie en protégeant la forêt du bassin du Congo, un absorbeur net de dioxyde de carbone dont le monde entier bénéficie. La protection de la sécurité de la précieuse forêt gabonaise est primordiale pour notre succès dans la lutte contre le changement climatique.
Madame Thomas Greenfield a également réitéré l'engagement de Washington à continuer de travailler avec les institutions africaines, dont l'Union africaine, comme en témoigne, conclut-elle, la collaboration pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
Au Bénin, le décès d'un étudiant en troisième année de droit, brûlé vif pour avoir été confondu à un voleur, continue de susciter l'émoi, la colère et la consternation. Aujourd'hui, les étudiants de l'université d'Abomey et Calavi ont organisé une marche pacifique pour réclamer justice et réparation pour le jeune Éloi Dogo, tué par une population en furie. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Feuradandé.
Il n'avait que 22 ans lorsque son chemin a croisé une foule surexcitée à la recherche d'un dangereux braqueur. La scène se passe à Parako, une ville située à plus de 200 km de Cotonou. Aujourd'hui, ses camarades étudiants demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités afin que ce crime ne reste pas impuni.
Ce qui nous a choqué dans cette vidéo, c'est que le camarade n'a eu aucune chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prouver son innocence. Il a été arrêté et lâchement brûlé. Ce qui s'est passé est très, très dangereux. Le Bénin fait partie désormais du Conseil des droits de l'homme. Nous revendiquons le droit de l'homme sur le plan international. Et pourquoi nos camarades étudiants, on a dit, nous avons eu l'expérience sur le campus. Les étudiants ne sont pas des voleurs.
Ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux que nous devons trier. Nous devons être présents et nous soutenir sur le terrain.
Nous ne nous sentons plus en sécurité. Nous demandons au président Patrice Talon de prendre les responsabilités.
Ses proches sont montés au créneau et crient à l'injustice. Selon eux, Éloi Dogo n'est nullement un braqueur. Il a été donc innocemment tué par une foule qui ne lui a même pas laissé le temps de s'expliquer. Une tragédie qui remet sur le tapis la question de la vindicte populaire qui refait surface en raison de la recrudescence des vols, braquages et cambriolage. La population a un avis mitigé sur la question. Pour certains, le laxisme des autorités est en cause. Et pour d'autres, c'est de la barbarie que de chercher à faire justice soi-même.
Notre justice ne répond pas vraiment à ce qu'on attend. On prend un voleur quelques jours après, il est relâché, il est encore dans la nature pour commettre des forfaits encore plus graves que ce qu'il avait commis.
La mime n'a pas dit de tuer son prochain. C'est même du cannibalisme. Le vol, c'est pas bien. Mais on est dans un pays de droit.
il faut comprendre que c'est un débordement de sensations, c'est un débordement de ressentis vraiment.
D'une part, la population a raison, mais de notre côté aussi, elle n'a pas complètement raison. Puisque, après tout, c'est un être humain comme nous, donc on n'a pas le droit de leur arracher la vie comme ça, non.
Valentin Adjovi est juriste. Selon lui, le lynchage de l'étudiant doit être sévèrement puni, puisque la loi interdit une telle pratique. Et dans ce cas-ci, la victime a été prise pour ce qu'elle n'était pas. Alors, selon lui, l'État doit prendre ses responsabilités et envoyer un signal fort.
La clameur publique ne peut pas conclure, ne peut pas juger de ce que l'individu est un voleur, parce que le principe de la présomption d'innocence dit que tant que l'individu n'a pas été poursuivi par une juridiction bien organisée, tant que l'individu n'a pas bénéficié d'une bonne défense, on ne peut pas conclure de sa culpabilité. Donc, à tout moment, tant que le juge n'a pas démontré qu'un individu est coupable, il demeure innocent. Et le doute lui profite. Ce n'est même plus possible désormais qu'on donne la mort à un individu, parce que depuis le 5 octobre 2012, le Bénin a résolument tourné le pas vers l'interdiction de la peine de mort.
Suite à l'enquête policière ouverte après ce drame, une autorité locale et un conducteur de taxi-moto ont été arrêtés. Ils seraient parmi les instigateurs de cette tragédie. Mourir à 22 ans et enterrer toutes les promesses de l'avenir. Pour le moment, les autorités n'ont donné aucune précision sur cette enquête, dont les conclusions sont très attendues pour apaiser la colère des étudiants et des parents de la victime. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden, parti assister au sommet des dirigeants du G20 à Rome, se rendra aussi à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique ou COP26 à Glasgow en Écosse. La chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, qui a fait le voyage avec le président, nous résume les questions clés dont les dirigeants discuteront. La narration est de Ginny Kapumu-Villa.
Rome accueille le sommet des dirigeants du G20 ce week-end. Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine étant absents, les projecteurs seront braqués sur le président américain Joe Biden durant ces deux jours d'échange. Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale.
Les États-Unis et l'Europe seront là, et ils seront là, énergiques et unis au G20 et à la COP26 pour diriger l'agenda.
Mais ce ne sera pas facile. Biden doit restaurer la crédibilité des États-Unis après le retrait militaire désordonné d'Afghanistan et la rupture avec Paris au sujet de l'accord AUKUS qui a saboté un contrat de sous-marin français avec l'Australie. Leslie Vinjamuri, directrice du programme États-Unis et Amérique à Chatham House.
Il s'agit de reconstruire le partenariat transatlantique après un mois d'août très difficile avec la sortie d'Afghanistan et la réaction européenne à cela. Mais il s'agit alors de problèmes concrets. Le climat, l'accord mondial sur l'impôt minimum sur les sociétés et la restructuration de la dette sont donc vraiment importants.
Biden mettra l'accent sur son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre à environ 50% au-dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030. Mais le leadership mondial des États-Unis sur la question dépend également du programme climatique national de Biden, tel que reflété dans deux projets de loi sur les infrastructures et les dépenses sociales en difficulté au Congrès. Matthew Goodman, vice-président principal pour l'économie au Centre de stratégie et études internationales, a déclaré via Skype.
Le président ne sera malheureusement pas dans la même position de force qu'il aurait été pour pousser d'autres pays à prendre des engagements plus ambitieux sur le climat.
L'élimination progressive du charbon est une affirmation clé, tout comme l'engagement des pays riches à fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à atténuer les impacts du changement climatique. Ye Min, vice-président chinois de l'écologie et de l'environnement.
Dans le contexte de la mise en œuvre officielle de l'accord de Paris, ces questions affecteront la confiance politique mutuelle et la capacité des pays en développement à prendre des mesures liées au climat.
Sur le front de la pandémie, les organisations humanitaires affirment que les pays riches n'ont pas tenu les engagements pris lors du G20 de l'année dernière pour assurer l'accès mondial aux vaccins, accumulant plutôt des centaines de millions de doses pour leur propre population. Nathalie Ernoux, responsable du plaidoyer régional à Médecins sans frontières Access Campaign via Skype.
Ce que nous aimerions voir, c'est qu'ils mettent en place clairement un calendrier pour fournir ces doses à COVAX pour les pays de manière transparente, avec un calendrier très clair.
Biden, un fervent catholique, avait prévu de rencontrer le pape François au Vatican avant le G20.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Bion à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.